Bonsoir, l'actualité des Alpes du Sud de ce vendredi 28 mars. Comment ont travaillé les enquêteurs et experts dans l'affaire du petit Émile Soleil ? Hier, lors de sa conférence de presse à Aix-en-Provence, le procureur a précisé qu'une soixantaine d'expertises ont été ordonnées. Mais de quoi parle-t-on ? C'est le dossier de la rédaction. Les cobuages n'étaient ni contrôlés ni déclarés. Heureusement, grâce à l'action des pompiers, seulement quelques centaines de mètres de broussailles sont partis en fumée à Briançon. La police des Hautes-Alpes rappelle que le territoire est actuellement classé en période orange. La vigilance est de mise. 3 mois de ralentissement à prévoir dès lundi au niveau du carrefour de Tallard. Selon la préfecture, à cause du chantier du giratoire, les temps d'attente vont être rallongés. Et puis Orcières accueille ce week-end une centaine de snowboarders de 11 nations à l'occasion de la Coupe d'Europe de snowboard cross. C'est le dossier de la rédaction dans l'affaire du petit Émile Soleil. Quel a été le travail des experts ? Le procureur d'Aix-en-Provence évoquait hier les avancées dans l'enquête après la mort de l'enfant de 2 ans et demi, disparu le 8 juillet 2023 au Auvernais. Réponse avec Cyrielle Cava-Michard.
Oui, Aurore, des avancées, un tournant dans l'enquête après la mort du petit Émile Soleil, disparu le 8 juillet 2023 au Auvernais et dont les ossements avaient été retrouvés en mars 2024. Lors d'une conférence de presse ce jeudi, le procureur d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, a déclaré que les vêtements et les ossements de l'enfant ont été transportés et déposés peu de temps avant leur découverte. Quant au corps, il ne s'est pas décomposé dans les vêtements retrouvés dans la forêt et n'a pas demeuré au même endroit et dans le même biotope au cours du processus de décomposition. Il n'a pas été enfoui. Enfin, son crâne présente les stigmates anatomiques évocateurs d'un traumatisme facial violent.
Si la piste de l'intervention d'un tiers est désormais une probabilité, c'est grâce au travail, Cyriel, des experts.
En effet, grâce au travail des experts, puisque plusieurs missions d'expertise, une soixantaine au total, ont été ordonnées par les magistrats instructeurs. C'est ce qu'expliquait le procureur Jean-Luc Blachon.
Les magistrats instructeurs ont ordonné plus de 60 missions d'expertise dans des domaines aussi divers que ceux de la physico-chimie, l'entomologie funéraire, l'anthropologie, l'anatomie crânio-faciale, la pédopsychiatrie, la génétique, la biologie, l'écologie médico-légale et l'analyse médico-légale.
Mais alors de quels experts parle-t-on et quelles ont été leurs missions ? Dès la découverte des ossements de l'enfant dans un sentier menant au Auvernais, le secteur, souvenez-vous, avait été gelé afin de mener des fouilles approfondies. Un travail qui a permis aux experts en entomologie médico-légale d'étudier la faune forensique et notamment d'établir le déplacement des ossements. Lorsqu'il y a décès, des insectes nécrophages, des mouches viennent pondre des œufs sur le corps. Ces œufs se transforment en larves, puis en pupe, une sorte de chrysalide qui se rigidifie et reste sur les vêtements du corps ou sous le cadavre, comme nous l'explique Sébastien Aguilar, policier scientifique et porte-parole du syndicat SNIPAT. Une fois que la larve devient mouche, la pupe se casse, la mouche sort. Les entomologistes recherchent alors des pupes vides qui permettent de donner une localisation de l'emplacement du corps. Dès la découverte des ossements de l'enfant, quelques centimètres de terre ont été récupérés sous le squelette afin d'examiner si elles contenaient ces pupes vides. Logiquement, s'il n'y en a pas, c'est que le corps n'était pas à cet endroit précis et donc il y a eu un déplacement.
Quant aux expertises du crâne, elles indiquent les stigmates anatomiques évocateurs d'un traumatisme facial violent.
Si le procureur évoque désormais la probabilité de l'intervention d'un tiers dans la mort d'Émile, les experts notamment en anthropologie, en anatomie crânio-faciale et en analyse médico-légale devront se prononcer sur un point, selon le policier scientifique Sébastien Aguilar, savoir si la lésion est antémortem ou post-mortem, c'est-à-dire si l'enfant était vivant ou mort quand il y a eu le coup au niveau de la tête. Une question à laquelle n'a pas répondu le procureur, qui n'a voulu écarter ce jeudi aucune des deux hypothèses entre le meurtre ou la chute. Les vêtements de l'enfant ont également été passés à la loupe. Dans ses déclarations, le procureur déclare que ces derniers ont été déposés peu de temps avant leur découverte. L'analyse des fibres par la physico-chimie permet de l'affirmer. Ce domaine permet d'analyser la dégradation des fibres en milieu extérieur par l'environnement, la chaleur ou le soleil. Les experts de l'IRCGN travaillent dessus pour montrer que la dégradation ne correspond pas à celle d'un corps retrouvé 8 mois après la disparition. L'écologie médico-légale a aussi servi à établir ses conclusions. C'est la flore forensique, c'est-à-dire l'analyse des terres et des pollens. Si vous retrouvez un corps à un endroit précis, il faut regarder si cela correspond aux pollens des espaces végétales alentour.
Et Cyrielle, le travail des experts peut-il à nouveau être sollicité ?
Alors, selon certaines sources, toutes les expertises sur le squelette et les vêtements ont été faites. Les seuls éléments sur lesquels les enquêteurs peuvent travailler aujourd'hui sont la téléphonie et les traces numériques. Il est possible que les téléphones portables des quatre gardés à vue, c'est-à-dire l'oncle, la tante et les grands-parents d'Émile, et été récupéré par les enquêteurs afin de mener des recherches, vérifier potentiellement des photos, des données de géolocalisation, des échanges de messages, les réseaux sociaux, les comptes cryptés comme WhatsApp, les historiques de navigation. Des recherches peuvent être faites rapidement, d'autres par contre sont plus longues et durent plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
Merci Cyrielle, un dossier que vous pouvez retrouver sur alpe1.com. Dans le reste de l'actualité, les pompiers mobilisés sur un feu de broussailles à la mi-journée à Briançon. L'éco-buage n'était ni contrôlé ni déclaré selon la police nationale. L'action des pompiers des Hautes-Alpes a permis de contrôler rapidement le sinistre puisqu'il n'a parcouru que quelques centaines de mètres carrés. Mais la police rappelle que le territoire haut-alpin est actuellement classé en période orange, une période qui signifie un risque accru de départ de feu en raison de la sécheresse croissante de la végétation. Vous devez suivre plusieurs règles de sécurité avant un éco-buage. Le détail est à retrouver sur alpe1.com. Le non-respect expose les contrevenants à une amende de 135 euros. Il va falloir prendre votre mal en patience. Des ralentissements sont à prévoir durant 3 mois au niveau du carrefour de Tallard dès lundi. La préfecture des Hautes-Alpes précise que la circulation ne sera pas interrompue, mais les temps d'attente vont être rallongés par rapport à la situation habituelle, que ce soit d'un côté ou de l'autre du chantier. Des itinéraires alternatifs seront proposés aux automobilistes dans les phases les plus importantes pour permettre aux usagers d'éviter le secteur. Le chantier du nouveau giratoire devrait se conclure pour la fin du mois de juin pour une mise en service aux vacances estivales. Toujours sur les routes, un glissement de terrain menace de nouveau du côté de la RD 946 à Saint-Vincent-sur-Jabran. Un alternat de circulation est mis en place. Le détail sur alpe1.com. Les stations de Risoul et d'Orcières-Merlette s'engagent pour une montagne zéro déchet d'ici 2030. Elles ont signé hier une charte montagne avec l'association Mountain Riders autour de plusieurs priorités. Réduire, sensibiliser, mais aussi collecter. Vous pouvez retrouver le dossier complet sur alpe1.com. Et puis un mot de sport, on reste à Orcières-Merlette. La station accueille pour la première fois la Coupe d'Europe de snowboard cross, un événement qui est porté par le club local des Reptiles, c'est jusqu'à dimanche. Plus de 100 snowboarders de 11 nations différentes font le déplacement pour l'occasion. Ils vont tenter de décrocher le titre de vainqueur de la Coupe d'Europe 2024-2025.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com.